Nicolas Maleski, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc Sous le compost chez Fleuve. Vous êtes l'un des cinq auteurs finalistes du Grand Prix RTL Lire 2017. La particularité, c'est qu'il s'agit d'un premier roman. On vous découvre avec ce livre. Et alors moi, ce qui d'emblée m'a frappé, c'est que souvent dans un premier roman, l'auteur ne résiste pas à la tentation du récit autobiographique. Rassurez-nous, ça n'est pas le cas, bien sûr, ici, avec vous et dans cette histoire.
Non, effectivement, il y a assez peu d'éléments autobiographiques dans ce roman. Le point de départ, c'est simplement la mise en scène d'un homme au foyer, et avec l'idée de mettre cet homme dans la situation que malheureusement on attribue encore un peu trop souvent en France, au moins aux femmes, c'est-à-dire que c'est cet homme qui s'occupe du ménage, de la cuisine, des enfants, et c'est le point de départ du roman. Mais effectivement, on ne retrouve pas d'éléments autobiographiques marqués.
Ça n'est pas le cas pour vous, par exemple. Vous n'êtes pas un homme au foyer.
Je ne suis pas un homme au foyer, bien que je participe aux tâches du foyer.
Donc cet homme, Franck Van Penitas, où est-ce que vous avez l'art aussi de dénicher les noms? Où est-ce que vous êtes allé le chercher, ce Franck
C'est
Van
important, les noms, c'est
Penitas?
important. Trouver le bon nom, à la fois dans les prénoms, des prénoms assez courants, et puis parfois s'échapper sur des choses un peu moins habituelles. Van Penitas, j'ai oublié complètement l'histoire de ce nom, mais c'est la sonorité peut-être qui m'a plu.
Et donc, ce Franck Van Penitas, qui s'occupe de ses trois filles, vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de talent, qui se passionne pour son jardin, pour la culture des courgettes, des tomates, il reçoit un beau jour une lettre anonyme et on lui dit, Monsieur, votre femme, qui elle est vétérinaire, Gisèle, vous trompe allègrement. Pourquoi vous emparer de ce thème de l'adultère?
C'est un petit peu le hasard. Je pars avec l'idée de départ et puis l'ambition d'écrire un roman. Et forcément, tout ça appelle des personnages, appelle des petites intrigues, des péripéties. Et puis arrive cette histoire d'adultère qui fait avancer le roman et au quotidien.
Alors, il a quand même une réaction assez étonnante, ce Frank Van Pelitas. C'est qu'il va recevoir ça avec un flegme assez étonnant.
Oui, ça fait partie du personnage. On n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est quelqu'un qui est un peu l'ours du village, qui a atterri dans ce village de montagne pour suivre sa femme, qui est vétérinaire. Lui ne travaille donc pas. Et c'est quelqu'un qui est pas très doué pour la vie en société, qui fait preuve de mauvaise foi, qui est un peu acerbe, qui est pince sans rire, un peu cynique. Et ça fait partie de ce personnage que d'affronter la réalité avec pas mal de retenue et avec de la distance. C'est aussi quelqu'un qui s'ennuie. C'est un peu un mélange d'une Madame Bovary sous les dehors d'un Jean-Pierre Bacri.
Je le cite, hein, je n'allais pas me sentir bafoué ou humilié ni déshonoré comme le premier crétin venu.
Oui, c'est la réaction qu'il a quand il découvre l'adultère de sa femme.
C'est un misanthrope magnifique. Enfin voilà, il a ce côté-là aussi qui le rend finalement assez séduisant et surtout à la fois il a ce côté comme ça, cette misanthropie, ce côté solitaire et en même temps aucune aigreur. C'est un misanthrope heureux. Non?
Oui,
Ça vous va
c'est
comme
un
définition?
misanthrope heureux, oui, puisque tant qu'on ne vient pas marcher sur ses plates-bandes et qu'on ne vient pas l'embêter dans sa vie courante, c'est un misanthrope heureux, effectivement, c'est une bonne expression.
En fait, il a toutes les caractéristiques qui pourraient en faire un personnage absolument odieux.
Oui.
Et au contraire, il est éminemment. Enfin, on le trouve sympathique et on s'identifie à lui et on suit comme ça ses aventures d'une certaine manière.
Ça joue parfois quelques nuances, hein, le fait qu'un personnage soit bien pris ou mal pris, ou aimé ou pas aimé. Je pense que quelques phrases parfois, en trop ou en moins, peuvent jouer.
Qu'est-ce qui, dans Franck, qu'est-ce qui est le plus proche de vous?
Oh, il y a un petit peu ce caractère misanthrope, hein, qu'on peut retrouver chez moi. C'est peut-être ce qui me relie à lui, mais ça s'arrête là.
Il y a une autre dimension dans ce livre, c'est aussi un roman, une espèce de fresque sociale, et une comédie sociale en tout cas, et assez caustique sur une certaine vie de province. Ça n'est pas situé précisément, mais on peut penser qu'on est quoi quelque part peut-être dans le sud de la France.
Il y a la volonté de ne pas situer le cadre géographique et il n'y a pas d'inspiration précise. On est à la montagne,
Voilà.
effectivement, moyenne montagne plutôt.
Vous aviez envie de croquer cette vie-là?
Oui, j'avais envie de mettre en parallèle une vie périurbaine ou rurale de village, puisqu'il y a vraiment deux mondes. Il y a celui-là avec avec les amitiés du garagiste ou du patron de bistrot, et puis de mettre en parallèle avec le monde vétérinaire qui vient plutôt de la ville d'à côté, effectivement des gens aisés, une bourgeoisie, et je voulais confronter ces deux mondes-là. Franck, il est à cheval sur les deux, il sait se mouvoir aussi bien dans le premier monde que dans le deuxième, donc il est un peu le trait d'union et une partie de sa réflexion est de confronter ces deux mondes-là. Au début du roman, il en pointe essentiellement les mauvais côtés de ces deux mondes-là, et le roman avançant, il prend conscience des bons côtés des deux mondes. Mais c'est aussi une peinture, oui, du père urbain, où on retrouve des personnages un peu cocasses et parfois un petit peu à l'abri de la modernité.
Donc vraiment, ce qui fait votre originalité, c'est ce ton, hein, on l'a déjà évoqué, qui en permanence oscille entre la comédie, on est dans une histoire d'adultère, c'est une espèce de vaudeville moderne, et puis le roman noir aussi. Voilà, il y a quelque chose, dès le départ d'ailleurs, là, comme ça, qui sourde, un peu inquiétant, qui ressemble à une menace. Là aussi, c'était une volonté chez vous, vraiment, d'écriture, de mêler ces registres différents, de jouer là-dessus?
Oui, complètement. Il y avait la volonté d'introduire dès le début, effectivement, une menace, mais complètement sous-jacente, et puis qu'on oublie d'ailleurs sur la plus grande partie du roman, avec quelques petites piqûres de rappel, mais très, très fines, de manière à rappeler qu'il y a peut-être une intrigue sous-jacente. Mais je ne voulais pas que cette intrigue prenne le pas sur le quotidien, mais elle devait conclure quand même le roman, et c'est ce qui se passe avec la fin du roman et le dénouement.
Et alors là, d'un seul coup, on était plutôt dans la comédie, parfois même la farce, et d'un seul coup on bascule carrément dans le polar. Ça ne rigole plus, j'allais dire, dans la toute dernière partie, où ça rigole moins.
Oui, ça effectivement, ça, on bascule un petit peu dans le registre, même si le style est le même. Ça aussi se conjugue avec la résolution des errements de Franck, où les adultères ne sont pas éternels et où il faut un jour ou l'autre arriver à terminer tout ça. Donc la fin, les quelques 20 ou 30 dernières pages voient l'ensemble des intrigues se résoudre.
Et puis surtout, où on voit qu'on peut faire des choix de vie sur de fausses certitudes.
Oui, complètement. On peut échafauder pas mal de choses sur de fausses certitudes.
Quelle référence vous aviez en écrivant ce livre-là?
Mais je suis un très haut lecteur. Je viens pas du monde de la littérature. J'ai pas fait d'études littéraires, mais j'ai beaucoup lu. Et mon principe, c'est d'écrire le livre que j'aurais envie de lire. Donc c'est mon principe qui me guide. Je suis à la fois lecteur, à la fois auteur, mais je suis le lecteur du livre que je suis en train d'écrire.
Très souvent, en vous lisant, de par le côté comme ça, misanthrope du personnage, et puis cette atmosphère aussi, où on est un peu dans quelque chose de sarcastique, mais avec aussi cette menace sourde et un coup de théâtre qui tient du polar. Très souvent, j'ai pensé à Philippe Djian. Est-ce que c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous avez l'habitude de lire?
Philippe Djian, c'est quelqu'un à qui je dois mes premières émotions de lecteur vers l'âge de 17 ans.
Ah, donc, effectivement, mon impression est assez fondée, alors.
Oui, c'est quelqu'un qui a accompagné mes premiers moments de lecteur adulte dans les années 90, si je ne me trompe pas.
Donc le parallèle vous,
le
vous
parallèle
plaît plutôt?
Ne me déplaît pas du tout.
Et alors, est-ce qu'il y a une influence stylistique également? Là, elle est peut-être moins nette.
Je ne sais pas. Je sais que... Enfin, je crois savoir que je porte autant d'attention que des écrivains comme lui sur ce point-là. Je peux passer des heures sur une phrase, un mot. Ce n'est pas ça qui me rebute. Au contraire, j'ai plaisir à choisir le bon mot, la bonne expression, mettre la virgule où il faut.
C'est une écriture étonnante et qui m'a beaucoup plu, parce que elle balance, elle tangue en permanence entre une forme, une espèce de trivialité et puis de la sophistication. On sent en effet le travail.
Oui, en fait, je cherche un peu une voie entre la littérature populaire qui est souvent divertissante mais pas toujours très bien écrite, et puis une littérature plus haut de gamme qui en général est bien faite mais qui est parfois un peu auto-centrée et parfois un peu soporifique.
Ouais. Vous avez des noms, là?
Non, aucun nom.
Vous ne voulez pas vous fâcher
non.
avec vos collègues pour votre entrée en littérature. Mais alors, en tout cas, ce travail sur l'écriture, ça donne parfois de vrais bonheurs d'expression. J'en ai relevé quelques-uns, comme ça. Sa poitrine, donc à propos, je crois que c'est Valérie, le premier adultère de Franck. Donc, il la dénude, sa poitrine se libéra avec un phlegme de gélatine.
C'est imagé.
Oui, mais encore faut-il que l'image soit juste et pertinente. Et là, tout de suite, on la prend en pleine face, si je puis dire.
Chercher à mettre des mots sur des images, à la fois des mots, que ce soit techniques ou de la poésie, il y a toujours, c'est inépuisable. Comme un musicien arrive à inventer des mélodies, moi c'est ça qui me surprend, qu'il s'invente encore des mélodies tous les jours. Ça me dépasse et avec les mots on peut encore inventer des images et des phrases sans doute de manière pareille sans fin.
Parmi ces personnages, il y en a un aussi qui ne passe pas inaperçu, c'est Marc Baroni, donc qui est un ancien un copain de jeunesse, je crois qu'ils étaient à la fac
ensemble.
Voilà, au lycée. Alors oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Franck voulait être écrivain et puis on comprend que ça ne marche pas trop pour lui, alors que ce Marc Baroni est devenu un best-seller. Bon, on peut y mettre des noms, on peut imaginer, penser à des écrivains existants. Voici ce que dit. Donc, il vient à un moment donné dans le village, passer quelques jours chez Franck et Gisèle. Et voici ce que dit alors ce Marc Baroni, son succès, ce côté « m'as-tu vu » exaspère Franck. Et je cite Franck, « Je gardais pour moi ma théorie qui voulait qu'un écrivain, ça écrive, ça se lève le matin pour bosser, ça y passe la journée en s'accommodant du quotidien. » Et surtout, ça ferme sa gueule, sans quoi ça se répand, sans quoi ça pose, ça fréquente les mondanités, ça parade à la radio, ça finit même à la télé avec une mèche de cheveux pas croyable et des airs ombrageux. Et personne n'a besoin de connaître la tronche de l'écrivain qui a écrit le bouquin, ni de savoir combien de mètres de ficelle il a utilisé pour emballer son rôti. Magnifique autoportrait de Nicolas Maleski.
Oui, complètement, oui.
Mais pour vous, c'est ça, cette conception. On a l'impression que vous faites une idée de ce métier d'écrivain très, très haute.
Oh, c'est avant tout Franck Bonpenitas là, qui parle et, ouais, et qui écrit.
C'est sûr.
Oh, oui, c'est sûr.
L'écriture, ça vous démange, ça vous titille depuis longtemps?
Depuis longtemps, oui, depuis l'adolescence sans doute. C'est une activité que je pratique régulièrement et c'est un peu comme la lecture d'ailleurs, c'est en lisant et en écrivant qu'on trouve des solutions, qu'on trouve sans doute une appétence et un style.
Donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres manuscrits de Nicolas Maleski qui dorment dans vos tiroirs ou...
Il y a eu quelques tentatives, oui, par le passé, qui dorment dans les tiroirs, oui.
Et vous n'aviez jamais été publié?
Non, jamais.
Et vous cherchez depuis longtemps à être publié ?
Il y a quelques années, oui, que je fais des tentatives infructueuses.
Et là, ça s'est passé comment ?
Et ça s'est passé tout simplement par, non pas par la poste, mais par mail, parce que désormais, on peut fonctionner comme ça. Donc, l'envoi du manuscrit et puis quelques retours.
Dans plusieurs maisons d'édition ?
Oui, bien sûr.
Combien?
À peu près toutes celles qu'on peut trouver en France.
Ouais.
Et puis quelques retours, d'abord semi-positifs, puis trois quarts positifs, puis positifs complètement. Donc c'est ces retours aussi qui peuvent servir à améliorer le texte et puis en cascade finalement arriver à une version qui puisse satisfaire et séduire un éditeur.
Vous avez quel âge?
J'ai 39 ans.
Vous vivez, je crois, du côté de Tours. On ne sera pas plus précis. Vous faites quoi d'autre dans la vie?
J'ai une activité salariée dont je ne souhaite pas parler ici, mais l'écriture, c'est un loisir.
Et vous écrivez quand, d'ailleurs?
J'écris quand j'ai 10 minutes, quand j'ai 2 heures, plutôt en soirée. Donc, plutôt la nuit ou le matin. C'est les hobbies et les passions trouvent toujours leur place dans le quotidien d'une semaine.
Donc là, vous êtes sélectionné finaliste du prix RTL Lire.
C'est une belle reconnaissance et puis une chance d'exposition que ce prix-là. En plus, je suis assez joueur, donc
oui. Moi,
les concours, j'aime bien ça.
Vous allez être servi.
Même si la littérature n'est pas toujours compatible avec l'idée d'une compétition, moi, je suis quelqu'un d'assez joueur, donc j'y participe avec plaisir.
Vous jouez à quoi?
Moi, je suis joueur dans la vie de manière générale. Je joue à tout.
On s'arrête là? L'épreuve n'a pas été trop rude?
Ça a été.
Première interview, radio?
Première interview.
Et ben voilà, le baptême se termine là. Merci en tout cas à Nicolas Maleski.
Merci.
Sous le compost, publié au Fleuve.